voudrais vous rapporter une histoire que j'ai vécue à la fac, ou plutôt qu'un de mes amis a vécu. Vous savez, c'est une fac, la fac de Vaux-sur-Seine. Vous entendez Vaux et vous entendez la Seine. Et la Seine, c'est le fleuve qui traverse un peu la région parisienne et au-delà. Et du coup, on avait. Il y en a qui connaissent la fac de Vaux, qui sont déjà allés ? Un seul, d'accord. Alors, il y a un grand terrain de foot, et puis au bout du terrain de foot, il y a le fleuve qui passe. Et vers le fleuve, il y a un petit ponton sur lequel certains étudiants ont l'habitude parfois de se retrouver seuls pour méditer la parole de Dieu. Et un jour, un de mes amis qui était étudiant avec moi à la fac recherchait la volonté de Dieu pour sa vie. Il était amoureux, et avant de s'engager avec cette personne, il voulait avoir une confirmation que c'était bien Dieu qui l'envoyait dans cette direction. Alors il s'est retiré dans ce lieu pour méditer la parole de Dieu, pour lire la Bible, pour prier. Et il a prié ainsi: « Seigneur, envoie-moi un signe ». Et à sa grande surprise, Dieu a répondu à sa prière lorsqu'il l'a vu arriver sur l'eau, cet oiseau blanc majestueux qu'on appelle le cygne. Véridique. Ce matin, j'aimerais que l'on s'arrête quelques instants sur la question de la volonté de Dieu. Alors, juste pour être sûr que l'on parle de la même chose, je tiens à préciser qu'il y a deux paramètres dans la volonté de Dieu. D'un côté, la volonté, de l'autre côté... Ok, une qui suit. La volonté de quelqu'un, c'est ce qu'il... Ok, on va la refaire. La volonté de quelqu'un, c'est ce qu'il veut, exactement. C'est bête à dire, mais si ça permet de démystifier un peu l'expression, alors ça sera déjà ça de gagné. Exprimer ses dernières volontés, c'est exprimer ses derniers souhaits, ses derniers désirs. Mais ça va plus loin. La volonté, c'est pas juste un désir, mais c'est aussi, par exemple, dans la volonté d'arrêter de fumer, une décision, un choix exprimé, clair et défini, pour lequel on va mettre en place des choses pour que ce choix soit honoré, soit respecté, que l'engagement puisse aller jusqu'au bout. Donc par déduction, la volonté de Dieu, c'est tant ce qu'il désire, ce qu'il souhaite, que ce qu'il choisit, ce qu'il décide de réaliser, ce qu'il décrète. Alors voilà, la volonté, je l'ai un peu exprimée, défini la signification. Maintenant, passons à la définition de Dieu. De quel Dieu parle-t-on ? Alors, je ne prétends pas vous livrer un Dieu en HD ce matin, en haute définition, en vous décrivant ce qu'il est dans son essence, ses valeurs intrinsèques et immuables de sa personne et de son caractère. Non, loin de moi cette prétention. Mais si je peux d'entrée de jeu démasquer quelques idées erronées qui circulent sur Dieu et vous dire tout ce qu'il n'est pas, en tout cas ce qu'il n'est pas pour moi, alors ça sera déjà ça de gagner aussi. Dieu n'est pas un père fouettard. Il n'est pas un tyran qui est là pour nous punir, uniquement par méchanceté. Dieu n'est pas ce Dieu implacable, sans cœur et sans amour. Ça, c'est la première chose. Dieu n'est pas un père fouettard. La deuxième, ce que Dieu n'est pas pour moi, c'est qu'il n'est pas un papy gâteau. Vous savez, le papy gâteau qui attend son petit-fils à 4h30 à la sortie de l'école pour lui donner quelques bons becs, spirituels ou non. Il n'est pas ce Dieu qui fait miroiter à nos cœurs d'enfants que la vie est belle, avec ou sans lui. Il n'est pas ce génie d'Aladin qui est là pour exaucer 3 de nos vœux les plus chers. Troisième chose, Dieu n'est pas un Dieu lointain. Même s'il est le Créateur, le Dieu revêtu de majesté, rempli de force comme nous l'avons chanté ce matin, il n'est pas indifférent à ce que tu vis. Il n'est pas indifférent aux galères de ton parcours, aux joies qui te transportent ou aux douleurs qui te transpercent. Il chemine à tes côtés, il l'a promis, il l'a fait, et je suis persuadé qu'il continuera encore de le faire. La quatrième chose, c'est que Dieu n'est pas ce Dieu que tu mets dans ta poche. Dieu n'est pas créé à l'image de l'homme. Dieu n'est pas une invention humaine. Il est ce Dieu que tu l'acceptes ou non, Et même mieux encore, il n'a pas besoin que tu croies en lui pour exister, pour s'intéresser à toi et pour te tendre la main. Depuis que je connais Dieu, il a fait une sacrée différence dans ma vie. C'est pas juste le Créateur. Non, il m'a offert son amour de Père, assaisonné de sa patience de Père, enrobé de sa bienveillance de Père. Waouh, tout ça. Vous savez, comme dit la pub, pour tout le reste, il y a Eurocard, Mastercard, mais il y a des choses qui n'ont pas de prix. Et ça, ça n'a pas de prix. Et c'est de ce Dieu-là dont je veux vous parler ce matin. C'est de la volonté d'un tel Dieu dont on va parler ensemble. Nous sommes sûrement venus avec nos préjugés, nos habitudes, nos conceptions de Dieu. Alors je vous propose, pendant l'espace de quelques minutes, de remettre les compteurs à zéro et d'essayer de comprendre ce que Dieu veut pour nous et comment il veut nous le communiquer ce matin. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Paul aux Colossiens dans le Nouveau Testament, deuxième partie de la Bible. Après les évangiles et les actes, Paul a écrit un certain nombre de lettres aux églises et c'est la lettre de Paul aux Colossiens que nous allons lire à l'église de Colosse. Juste un verset. Colossiens 1 au verset 9. Chapitre 1, verset 9. Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. On relit ça ensemble. Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Et un deuxième texte, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, je vous le lis. Ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Alors je vous propose quelques outils pour, peut-être en toute humilité et modestie, essayer ensemble de mieux discerner ce que Dieu veut pour nos vies au quotidien. La volonté de Dieu, ce que Dieu veut. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, nous dit la Bible, et placer Dieu au centre de nos choix, de nos priorités, c'est tout à fait honorable. Mais dans la réalité, c'est quand même difficile de discerner qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Alors, quelques principes. Nous venons avec des questions. Nous venons en essayant de savoir, de comprendre ce que Dieu veut pour nous dans telle ou telle situation de notre vie. Alors qu'on dit que la Bible est la parole de Dieu, n'est-ce pas ? La parole de Dieu, c'est le lieu privilégié où Dieu parle. La Bible est le moyen privilégié de Dieu pour nous parler, alors on peut essayer donc de trouver des réponses. C'est tout à fait justifié, justifiable. En effet, on trouve dans ce livre un certain nombre de règles, essentiellement morales, qui peuvent orienter une partie des décisions de notre vie, des décisions qui sont essentiellement éthiques. Je vous donne un exemple. La femme de mon voisin me fait des avances. Est-ce que je dois y céder, oui ou non ? Est-ce que je dois succomber à son charme ? Oui ou non. FBI, fausse bonne idée. Pourquoi ? Parce que Dieu nous conseille vivement dans les 10 commandements de ne pas convoiter la femme de notre prochain. Messieurs, mesdames, c'est relou, c'est ringard, c'est rébarbatif, peut-être. Mais si Dieu a posé ce principe, c'est pour notre bien et il sait ce qu'il fait en le faisant. Ce n'est pas pour nous embêter. Autre exemple, quel métier choisir ? Un travail bien payé s'offre à moi, mais pour accéder à cette paye conséquente, je ne critique en rien les commerciaux, je vais devoir mentir, arnaquer et voler le client à un point vraiment assez avancé, on va dire. Est-ce que Dieu veut ça pour moi ? FBI, fausse bonne idée. Pourquoi ? Parce que Dieu a dit « tu ne voleras pas ». Et la Bible nous parle de travail honnête quelques pages plus loin. Elle nous décrit même la situation d'un collecteur d'impôts, Zachée, qui, lorsqu'il a rencontré Jésus, a changé radicalement sa façon de concevoir sa vie professionnelle. Autre exemple, est-ce que je vais me mettre à fumer ? Est-ce que cela est conforme à ce que Dieu veut ? 1 Corinthiens 6, tout m'est permis. Allons-y, donc a priori je peux le faire. Mais vous savez qu'un texte hors contexte est un prétexte. Et si on lit la suite du verset, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et je ne me laisserai asservir par rien. Ailleurs, il est recommandé d'aimer son propre corps, d'en prendre soin. Du coup, je peux me poser ces questions tout à fait judicieuses. La cigarette, le joint et autres saletés à fumer vont-elles me rendre dépendant ? Vont-elles d'une manière ou d'une autre m'empêcher de prendre soin de mon corps ? Vous savez, maintenant, sur tous les paquets de cigarettes, il y a marqué en gros « fumer tue ». Et si je recherche la volonté de Dieu, ne serait-ce que de façon purement cartésienne, je ne vais pas choisir cette option-là. Encore une fois, une fausse bonne idée. Là, je vous donne des réponses faciles. D'accord ? Mais je voudrais vous dire, attention aux réponses toutes faites. Parce que la Bible, c'est pas ça. C'est pas un livre de recettes à deux balles, toujours ouvert à la bonne page pour se prouver que l'on a raison. La Bible n'est pas un bouquin de sorcellerie non plus. Ce n'est pas en ouvrant une page au hasard que vous allez à chaque fois y récolter un verset qui va forcément apporter une réponse de Dieu à la question précise que vous vous posez. On raconte l'histoire d'un homme qui était au bord du suicide. Vous connaissez peut-être cette histoire. Il chercha du réconfort et la volonté de Dieu dans la Bible. Alors il ouvre les évangiles, au hasard il tombe sur le texte, et Judas alla se pendre. N'en croyant pas ses yeux, il redoubla d'efforts pour chercher la volonté de son Dieu dans sa parole. Il retenta sa chance en feuilletant quelques versets auparavant où il put lire « Ce que tu as à faire, fais-le vite ». Croyant obéir à Dieu, il prit une corde, il alla se pendre à un arbre. La corde se cassa. Le pauvre homme eut des doutes et se dit « Vraiment, Dieu ne veut pas me laisser dans cette situation, alors je vais retenter une dernière fois et je vais vraiment comprendre ce qu'il veut pour moi. » Il rouvrit sa Bible au hasard, quelques pages encore plus tôt, et tomba sur ce fameux texte « Va et repens-toi ». Il y a quelque chose de tragique dans cette histoire. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir à ces questions ensemble ce matin. Comment est-ce que nous utilisons la Bible ? Comment est-ce que nous utilisons ce que nous appelons la parole de Dieu ? Est-ce que nous ne sommes pas parfois des moineaux spirituels qui picorent et picorent quelque chose, quelques miettes, à droite, à gauche, limite superstitieux, par-ci, par-là ? Il n'y a rien de magique. Certaines choses sont évidentes dans la Bible. Mais la volonté de Dieu pour notre vie n'est pas toujours gravée dans les tables de la loi, malheureusement. Et Dieu ne court-circuite pas notre intelligence. Mais il nous invite, au contraire, à ouvrir la Bible pour mieux comprendre, pour mieux réfléchir, pour mieux le connaître, pour mieux découvrir le projet de bonheur qu'il a pour notre vie au quotidien. Pour connaître les désirs de votre enfant, il y en a qui sont parents dans la salle ? Pour connaître les désirs de votre enfant, comprendre les choix qu'il fait, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez par exemple appliquer un principe strict et rigide en vous disant, par exemple, mon enfant est une fille, elle a 6 ans et elle vit en France. Hop, vous ouvrez votre manuel de psychologie à la page 124 et là vous trouverez un long paragraphe sur les centres d'intérêt et les désirs d'une fillette de 6 ans qui vit en Occident. Ça vous donnera un indice précieux. Mais est-ce pour autant que vous connaîtrez votre enfant ? Est-ce que vous connaîtrez ses besoins profonds, ses désirs et surtout sa façon personnelle qui lui est propre de ressentir votre amour ? Bien sûr que non. Pour cela, il vous faudra passer du temps avec votre enfant, avec lui, avec elle. Idem pour votre conjoint, pour vos amis. Si vous voulez leur faire plaisir, connaître leurs désirs, comprendre leurs choix, leur volonté en quelque sorte, il vous faudra développer et entretenir une relation de confiance, une relation personnelle avec eux. Et j'ai envie de dire, ça coule de source, mais avec Dieu, c'est pareil. Plus vous allez développer une relation spirituelle avec lui, un échange dans la prière, l'écoute de sa parole, plus sa volonté va vous sembler évidente, même si on apprend à chaque âge et qu'on n'est jamais arrivé et que Dieu reste parfois ce Dieu imperceptible. Alors je ne vous connais pas. Vous êtes sûrement très pieux dans cette église. Vous recherchez la volonté de Dieu en toutes circonstances et je vous en félicite. C'est top. Mais ce qu'il faut considérer, c'est que toutes ces circonstances, justement, sont différentes. Et qu'à chaque circonstance, il faut peut-être appliquer un principe ou une méthode différente pour comprendre ce que Dieu veut et ne pas rester borné sans réfléchir. Tout n'est pas toujours tout noir ou tout blanc avec Dieu. Il n'y a pas de recette miracle et souvent vous resterez frustré d'éplucher votre Bible sans trouver de réponse précise à une question claire que vous vous posez pour le choix d'un conjoint, d'un travail, choix des études ou des études de vos enfants, le choix d'un lieu de vie, achat ou location d'une maison, un ou quatre enfants, dans combien de temps, quelle place trouver auprès de ses petits-enfants, quelle église choisir dans notre nouvelle ville, vers quelle maison de retraite m'orienter, quelle suite pour mes études, fac de psycho ou fac de droit, et puis quel ministère, pasteur ou missionnaire. Ouvrez votre Bible. Et si vous trouvez une réponse précise à cela du premier coup, alors n'hésitez pas à m'en faire part. Devant tous ces choix, on prie et on reste souvent désarmé. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi ? On n'arrive pas à le savoir. Alors, souvent, on nourrit des craintes. La crainte de ne pas faire les bons choix, de ne pas épouser la bonne personne, de ne pas choisir la bonne région géographique, la crainte de ne pas choisir le bon travail, etc., etc. Finalement, la crainte de ne pas plaire à Dieu et de ne pas répondre à son appel, de ne pas honorer sa volonté. Et plus le temps passe, plus je constate que la plupart de ces craintes, de ces peurs sont envahissantes et qu'elles ne servent à rien. Ou en tout cas, à rien d'autre que bien souvent nous paralyser et nous empêcher d'entendre la voix de Dieu. Alors j'ai envie de nous dire, faisons silence et écoutons, laissons-nous guider et laissons Dieu agir. Dieu nous laisse certes responsables de nos choix, et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération, mais parallèlement à ça, il prend aussi cette responsabilité, lui, de nous conduire sur le chemin, si nous lui remettons notre vie, que nous lui ouvrons la porte de notre cœur. Vous savez, Dieu c'est le bon berger. Et il sait que nous sommes des brebis qui n'avons pas vraiment le sens de l'orientation. Il sait qu'on est paumé. Il sait qu'on a perdu la boussole. Alors, en tant que berger, il prend l'initiative de conduire ses brebis. Et dans plusieurs histoires de l'Ancien Testament, Dieu intervient de façon inattendue avec son peuple, alors que le peuple ne l'a même pas recherché, ou qu'il n'y a pas eu de demande explicite de la part de ses serviteurs ou du peuple lui-même. Il donne des directives lorsque même cela n'a pas été recherché. L'exemple de Moïse, le buisson ardent, Moïse n'avait rien demandé. Dieu lui apparaît et lui donne un message clair, alors qu'il n'avait rien recherché de son côté. L'exemple de Samuel pour le roi David. Dieu met David devant lui alors que David n'aurait jamais dû revenir des champs où il gardait le troupeau. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Parce qu'il est mon berger, parce qu'il prend la décision de me guider, de me conduire, alors je ne manquerai de rien. Point à la ligne. Alors, bannissez la crainte et implorez la paix de Dieu dans votre cœur. Devenez des chrétiens cool. Restez zen. Dieu fera le reste. Laissez-vous embarquer dans l'aventure et restez confiant que si le torrent est spirituel, alors il vous mènera forcément à bon port. Dieu nous a donné des yeux, n'est-ce pas ? Il est le Créateur. Oui ou non ? Alors ouvrons-les. Essayons peut-être d'évaluer les obstacles et les murs qui se dressent devant nous. Sachons discerner, vous connaissez l'expression, les portes ouvertes et les portes fermées. Chacun a lui-même des portes ouvertes et des portes fermées devant lui pour les situations qui lui sont propres. Vous connaissez sûrement le proverbe, ça ne sert à rien d'enfoncer des portes ouvertes. Et moi j'aimerais en créer un autre ce matin. C'est encore plus dangereux d'enfoncer des portes fermées. Dieu nous a pourvus d'intelligence, et mieux encore, il nous invite, il nous appelle à nous en servir pour discerner quelle est sa volonté. Il faut parfois simplement faire preuve de bon sens. Parfois, nous sommes bornés avec nos vieilles méthodes. Nous sommes bornés à essayer de ressentir quelque chose, vous savez, la voix de Dieu au travers d'une intuition. L'intuition, c'est quand on va essayer de sentir le truc. Est-ce que quand je pense à cette chose-là précisément, est-ce que je suis enthousiaste ? Est-ce que je suis en paix ? Est-ce que je suis confiant ? Ou est-ce qu'au contraire, je le sens pas trop ? Je suis pas en paix. Ça ne me dit rien. Je sens que Dieu n'est pas avec moi. Alors on y va un peu au feeling, en espérant que ce soit Dieu qui parle au travers de nous, par son esprit. Mais la vraie question à se poser, au fond, c'est est-ce que l'intuition que je ressens est toujours le reflet de la voix de Dieu ? Je ne suis pas sûr. Est-ce que parfois cette intuition, aussi bonne puisse-t-elle être à certains moments, n'est-elle pas parfois faussée par nos propres sentiments ? Prudence. Si nous voulons être sensibles à la voix de Dieu, aussi par les intuitions, il est bon de passer du temps à prier pour que Dieu nous révèle quelle est sa volonté. Ironie du sort, quelque sorte si je puis dire, ce matin j'ai ouvert ma Bible dans ma lecture quotidienne et je suis tombé sur le psaume 25, verset 12, il est dit « À celui qui révère l'Éternel, Dieu montre la voie qu'il doit suivre. » À celui qui révère l'Éternel, Dieu montre la voie qu'il doit suivre. À nous qui sommes pressés, je nous mets au défi ce matin de consacrer seulement une minute par jour pour demander, prier chaque matin, prier Dieu qu'il manifeste sa volonté pour nous aujourd'hui. Est-ce que vous avez pris ce temps ce matin ? Et est-ce que dans votre course quotidienne, vous allez le prendre pour ces prochains jours, pour ces prochaines semaines, pour ces prochains mois ? Vous savez, Dieu a beaucoup d'humour. Lorsque j'ai été conduit à réfléchir sur ce thème et ces textes, je me suis rendu compte que c'était un gros défi avant tout pour moi de prêcher sur la volonté de Dieu, le discernement de la volonté de Dieu. Je suis dans une période de transition dans ma vie, dans plusieurs domaines. Et je cherche chaque jour quelques éléments pour discerner au mieux ce que Dieu veut pour moi. Et j'ai appelé dernièrement une amie de bon conseil en lui présentant ma situation et en lui demandant, à ton avis, qu'est-ce que tu penses que Dieu veut pour moi ? Elle a réfléchi quelques instants et à ma grande surprise, elle m'a répondu, et toi, qu'est-ce que tu veux ? Et j'ai failli lui dire, je pense que je vais reposer ma question en fait. Je t'ai demandé qu'est-ce que tu penses que Dieu veut pour moi, pas moi ce que je veux. Je pense qu'au travers de cette question, elle m'a rappelé que Dieu ne travaille pas sans nous, que Dieu ne court-circuite pas notre intelligence, mais qu'il ne court-circuite pas non plus nos désirs qui sont propres. Et il place souvent des choses sur notre cœur, il nous invite à y être attentifs, à nos dons, à nos souhaits, à ce qui nous fait vibrer. Et beaucoup de personnes que je rencontre qui sont engagées dans un ministère, à plein temps ou à temps partiel, ou simplement servir dans une église, ont un ministère qui correspond à ce qu'ils aiment, à ce qui les fait vibrer en profondeur. Notre appel est bien souvent en lien avec ce que nous désirons. Alors voilà, j'essaie d'être attentif à tout ça, aux portes ouvertes, aux portes fermées, et puis je prie. J'essaie d'être attentif à mes dons, à mes envies, à mes désirs, à la vision que j'ai moi-même pour ma propre vie, probablement celle que Dieu met sur mon cœur. Et puis parfois je comprends, et parfois je comprends pas. Parfois, je m'impatiente et je critique Dieu dans sa méthode. Parfois, je veux accélérer le processus et je veux faire pour moi-même parce que je pense que c'est mieux, en quelque sorte. Ou bien alors, je sais que je dois aller dans telle direction et puis je refuse de m'y soumettre, alors je pars à l'opposé, tel un prophète, Jonas, au cœur rebelle. Parfois aussi, je prends une direction qui n'est pas la bonne, mais je le fais pas exprès parce que je suis convaincu que je dois aller dans cette direction, peut-être par une intuition. C'est dans ces moments-là que je prends des risques, et j'ai envie de dire, c'est bien de prendre des risques. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont tellement dans la crainte, paralysées, tétanisées, de ne pas respecter la volonté de Dieu pour leur vie, que ces personnes-là font du surplace, et qu'elles ne prennent jamais de décision. Alors voilà, parfois je prends des risques, je vais dans telle direction, et puis je me plante. C'est alors que ce Père bienveillant me rassure en me disant, « Je te pardonne. » Tu as le droit de faire des erreurs. Alors Dieu fait un demi-tour avec moi pour me ramener sur la route qu'il a tracée. Je ne suis pas parfait. Je suis imparfait, plus qu'imparfait. J'ai fait des erreurs et je continuerai à en faire. Et j'imagine que pour vous c'est pareil, quel que soit votre parcours, quel que soit votre âge. Dieu est un Dieu compréhensif. Ça, je l'ai compris avec le temps. Et toute la Bible nous montre qu'il est un Dieu de pardon, un Dieu de grâce. Ce thème est déjà bien présent dans l'Ancien Testament et on le comprend encore mieux dans le Nouveau Testament. Et j'ai un scoop pour vous ce matin. Il est le Dieu des secondes chances. Et si ça suffit pas, ce Père patient vous donnera une troisième chance et une quatrième. Et si vous êtes sincère avec lui dans votre recherche de sa volonté, alors il vous traitera avec douceur et avec amour. J'aimerais conclure en m'adressant particulièrement à ceux qui mettraient les pieds dans une église pour la première fois ou qui sont là peut-être depuis quelques fois seulement ou qui ont des doutes dans leur cœur. Vous relevez un sacré défi de venir à la rencontre de Dieu et de rechercher sa volonté. Je voudrais vous laisser un message surpuissant. C'est que Dieu vous aime et que Dieu vous accepte tel que vous êtes. Vous voulez savoir ce que Dieu veut pour vous? Il veut vous trouver. Et plusieurs d'entre vous, peut-être, il veut vous retrouver. Il veut faire la paix avec vous parce qu'il y a cette croix sur laquelle il s'est retrouvé les bras en croix justement pour porter le poids de nos fautes et faire la paix avec nous. Il ne veut pas de votre religion, mais il veut d'une relation vivante avec chacun d'entre vous. Vous voulez savoir ce que Dieu veut pour vous? Il veut vous faire grandir. Il veut vous faire avancer dans votre vie, il veut vous sauver. Vous voulez savoir ce que Dieu veut pour vous? Il veut vous pardonner. Il ne veut plus que vous viviez dans la crainte, mais il veut que vous connaissiez le vrai bonheur. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut encore ce matin vous donner tout ce dont vous avez besoin. Alors, faites-lui un tout petit peu de place dans chacune des parcelles de votre vie, dans chacun des domaines. Laissez-le devenir tout en vous. Je vous invite à quelques instants de silence.